RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, la Méditerranée est devenue un cimetière. En 2016, selon l'ONU, 3800 personnes ont péri en tentant de rejoindre l'Europe. La Libye reste un point de départ privilégié pour les migrants, mais le pays est aussi dangereux. Alors depuis plusieurs mois, les candidats au départ choisissent une nouvelle route, l'Égypte. Le pays est devenu lui aussi une porte arrière pour les traversées illégales en mer Méditerranée. 10 à 15% des embarcations qui arrivent en Italie partent des côtes égyptiennes. Le 21 septembre dernier, un terrible naufrage avait fait au moins 200 morts au large des côtes égyptiennes. 500 personnes étaient sur le bateau. Un tiers des victimes sont égyptiennes, pour la plupart mineures. Un drame qui a mis en lumière la place de l'Égypte dans la crise migratoire. François Ferkatadji et Jenna Lebras sont retournés sur les lieux du drame pour comprendre ce qui motive les migrants et les passeurs à prendre la mer malgré les risques. Voici leur grand reportage. Égypte, le business du désespoir.
La première alerte du naufrage, elle est arrivée d'un village, de Jezira El Kadra, ça veut dire l'île verte. L'une des victimes, originaire de ce village, a appelé son père à 4h10 du matin pour lui dire qu'il était en train de couler.
Hafez, serveur dans un café planté sur le rivage, est aux premières loges la nuit du naufrage. Il assiste aux appels à l'aide et à l'impuissance des familles et des habitants coincés sur la côte.
Il y avait deux bateaux en mer. Ces deux bateaux devaient conduire les migrants dans un autre bateau plus grand à la limite des eaux territoriales. Mais à cause d'un conflit entre trafiquants, ils ont décidé de mettre tous les migrants dans le même bateau. L'un d'eux a refusé et a appelé les grosses têtes du réseau. Ils sont arrivés et leur ont dit « Si vous ne prenez pas tous ces gens, on vous tire dessus ». Donc ils ont forcé la capacité du bateau, ils l'ont surchargé et quand ils ont compris qu'il allait couler, ils ont donné aux migrants leur téléphone pour appeler leur famille, parce qu'ils savaient que ces jeunes ont des pêcheurs dans leur famille. Quand ici on a appelé les gardes-côtes, ils ont répondu qu'ils n'avaient pas d'ordre pour une mission de sauvetage. Ils ont dit aux pêcheurs qu'ils voulaient les secourir, qu'il fallait obtenir un permis pour pouvoir sortir en mer et qu'ils ne le donneraient pas avant 6h du matin.
Cette nuit-là, alors qu'ils ont connaissance du drame qui est en train de se jouer à quelques kilomètres des côtes, les secours égyptiens ne réagissent pas pour venir en aide aux 500 personnes en train de sombrer. Pire, les autorités empêchent les pêcheurs stationnés sur la côte de sortir leurs canots pour aller aider. Les marins n'ont été autorisés à sortir qu'à 9h le lendemain, seuls, car la marine égyptienne, elle, n'a pas bougé.
Les pêcheurs ont réussi à sauver 96 personnes et à récupérer quelques corps. Quand ils sont revenus, ils ont dit qu'il y avait beaucoup de morts qui flottaient dans la mer.
Parmi les morts, Hilal, 17 ans. Comme 21 autres victimes, il était originaire de Gezirat El Radra, un village de 30 000 âmes qui fait face à la ville de Rosette. Pour s'y rendre, il faut prendre une barque à moteur et traverser le Nil. Là-bas, nous rejoignons Abou Sherif, le père d'Hilal. Le vieil homme, longue barbe grisonnante et galabilla blanche, nous reçoit dans une maison très simple. Dans le salon, de grands tapis traditionnels et un ventilateur font office de seul ameublement.
Je me suis levé tôt ce matin-là. Quand je suis allé vérifier si mon fils était rentré, je ne l'ai pas trouvé. Je fais ça souvent. Je regarde mes enfants dormir depuis qu'ils sont petits. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai demandé à sa mère « Où est-il ? » Elle m'a dit « Peut-être qu'il passe la nuit avec ses amis. »
Les appels étranges de voisins et de connaissances se succèdent alors ce matin-là.
Il m'appelait et me demandait « Où es-tu ?» Je leur disais « Je suis en pause, que se passe-t-il » Il me demandait « Tout va bien ?» Je répondais « Oui, merci. » Et puis ma femme m'a rappelé pour me parler des rumeurs dans le village. Les gens disaient qu'Hilal avait pris le bateau. Je me suis dit « Mais comment est-ce possible ?» Il a juste dit qu'il partait à Rosette avec un ami.
Dans les environs, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Chérif, l'aîné de la famille qui vit en Arabie Saoudite, apprend également la nouvelle.
Après, j'ai reçu un appel de mon fils Chérif depuis l'Arabie Saoudite. Il m'a dit « Papa, je t'avais dit de ne jamais laisser Hilal prendre la mer. » C'est ce que j'ai fait, je lui avais interdit, mais il l'a fait.
Pourtant, quelques heures après l'incident, la famille ne s'imagine pas qu'Hilal ne rentrera pas à la maison.
Ma femme m'a dit que le bateau avait été arrêté, qu'ils étaient tous au port. Elle m'a dit, si tu as un fils là-bas, tu dois y aller et vérifier parce que la police les arrête. Moi, je lui ai dit, attends, on n'y va pas, ils vont l'arrêter, ils vont l'emmener au commissariat, sûrement le frapper pour lui donner une correction comme ça. À l'avenir, il saura qu'il doit écouter mes ordres, ne jamais ignorer ce que je lui dis. Mais elle a dit non, moi j'y vais. Au bout d'une demi-heure, elle ne le trouvait pas parmi les survivants. Elle m'a dit qu'il y avait des corps sans vie, beaucoup de corps qui arrivaient du large. Quand j'ai entendu ça, j'en suis devenu aveugle. Je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui comment j'ai rejoint le village. J'ai conduit comme un malade. Quand je suis arrivé, j'ai abandonné la voiture. J'ai traversé la rivière à toute vitesse pour rejoindre l'autre rivage.
Le premier jour est passé, le deuxième aussi, et les corps continuaient d'arriver. Le troisième jour, oui, le troisième jour, à 11h du matin, on nous a montré son corps sans
vie.
Quand j'ai ouvert le sac plastique pour voir mon fils, je n'ai pas reconnu son visage, mais j'ai vu ses vêtements et ses accessoires qu'il portait le soir où il est parti à Rosette. Les hommes du village ont fait un cercle autour de l'ambulance et fait un cortège jusqu'à ce qu'on dépose son corps à l'hôpital.
المركب ده اللي كان غرقان كان فيه 500 نفر غرقان عنده ورا في بغاز هنا ماشي كان في حصل دوشه بتاع بسبب ال
Ahmed devait être sur le bateau qui a fait naufrage cette nuit-là. L'hospitalisation de sa mère en urgence la veille l'a convaincu de repousser son voyage de quelques jours. Il vient nous chercher à la station de bus au volant de la vieille Peugeot d'un copain qui sert aussi de taxi. Et pour discuter tranquillement, il choisit un petit café installé directement sur le rivage. D'ici, on voit le Nil se jeter dans la mer. D'ici aussi, certains bateaux partent à la nuit tombée. Ahmed installe quelques chaises sur un ponton en bois et commande du thé.
Je veux partir pour travailler parce qu'ici, même avec mon travail de cuisinier, je n'arrive pas à avoir un salaire décent. C'est juste assez pour mes dépenses personnelles. C'est de l'argent de poche, je ne peux pas épargner un sou pour me marier. Je ne sais même pas comment trouver une femme. J'ai 22 ans, la majorité des gens à mon âge se sont mariés plus jeunes, à 18, 19, c'est la moyenne. Moi, je ne peux pas me le permettre. J'ai décidé de partir, je me suis renseigné comment faire. J'ai deux manières. La voie légale, mais je dois faire mon service militaire d'abord, et c'est autant de temps où je ne gagne pas d'argent, et puis c'est une perte de temps totale. Donc la deuxième façon, c'est de passer par la mer Méditerranée en traversant. Il faut trouver le passeur, mais je le connais déjà. Passer un bon deal avec lui et avancer la moitié de la somme avant de partir. Le reste sera payé à mon arrivée, et on verra bien comment ça se passe.
À Gezirat El Radra, la moitié des habitants ont moins de 25 ans. Seulement 3% de la population est officiellement employée. La majorité vit de petits boulots précaires. 40% sont au chômage.
Honnêtement, il n'y a rien ici, pas de futur et pas d'espoir. J'irai n'importe où, mais surtout l'Angleterre, je connais des gens là-bas. J'ai des amis qui y sont déjà. Il m'a fallu 4 mois pour collecter la moitié de la somme. L'argent que j'ai, c'est pas seulement le mien. J'ai emprunté à des gens, pas loin de 650 euros. Au début, ma famille a refusé et a ignoré totalement la possibilité de faire ce voyage. Mais après avoir vu d'autres partir, mes amis et leur vie en Europe, ils ont été convaincus qu'il fallait que je le fasse.
Mais Ahmed est majeur. S'il est secouru au large de l'Italie, il risque l'expulsion, comme le prévoit l'accord bilatéral passé entre le Caire et Rome depuis fin 2015.
Mes amis m'ont dit, quand tu décides de partir, avant d'arriver en Italie et de tomber sur la mission de sauvetage des Italiens, il y aura un autre bateau qui t'attendra dans les eaux internationales pour t'emmener en France ou ailleurs, pas en Sardaigne ou à Lampedusa. D'autres passeurs te feront passer ensuite jusqu'en Angleterre, grâce aux nouveaux équipements.
Tu veux dire des GPS ?
Oui, pour aider les marins. Donc maintenant, certains n'arrivent pas jusqu'en Italie. Ils dévient vers la France ou un autre pays de la Méditerranée et ensuite ils passent en Angleterre à partir de là. Mais je ne sais pas si je suis censé passer par Calais ou quoi. Je ne fais pas confiance aux trafiquants, mais j'en connais quelques-uns qui sont bien. Leur voyage arrive toujours. Ils transfèrent les gens. Pas sur des tout petits bateaux, mais des gros en métal. De 30 et quelques personnes. Le prix est plus cher, mais j'ai plus confiance en eux que les autres.
Et quand tu vois tous ces drames, tous ces naufrages, tu n'as pas peur ?
J'ai appris à nager et à faire de la plongée à Sharm el-Sheikh. Je suis malin, je n'ai pas peur. C'est la volonté de Dieu, ce n'est pas la mienne. Moi, ce que je veux, c'est arriver de l'autre côté, vers ma destinée.
Comme la veille à Rosette, nous ne pourrons pas terminer notre interview. Un homme surgit de l'intérieur du café. Ahmed et son ami nous emmènent à flanc de mer. Il faut quitter les lieux au plus vite. La présence de journalistes étrangers dans cette zone de départ, et donc dans le fief des trafiquants, éveille les soupçons de la police. Les jeunes hommes sautillent sur les chemins de terre, fendent à toute allure un atelier de Zodiac. Ce sont pour les Nazla, explique-t-il, des petits bateaux qui permettent de transiter les migrants vers des bateaux plus gros au large, mieux adaptés à de longues traversées. En contrebas de la route, une voiture arrive à toute vitesse, nous sautons à l'intérieur. Dans le véhicule, une discussion un peu surréaliste s'engage. Ce qui a éveillé les soupçons, c'est la présence d'Omar à nos côtés, resté discret jusqu'alors. C'est ce jeune passeur d'une trentaine d'années qui nous a mis en relation avec Ahmed. Pour poursuivre notre discussion, nous nous éloignons de la ville et nous nous arrêtons sur un vieux bateau de pêcheurs transformé en petit café.
Je suis un pêcheur en haute mer depuis 20 ans. Il y a quelques années, j'ai été approché par les réseaux de trafiquants et depuis, je travaille dans le business des migrants. Je sais beaucoup de choses là-dessus, mais je ne donnerai aucun nom, aucune identité sur les gens impliqués. Je fais ça depuis 1999. Les prix ont augmenté, la vie est difficile pour les familles, les pêcheurs. C'est ça qui pousse les gens à entrer dans le trafic, à cause de la qualité de la vie. Nous sommes pauvres, la situation économique est mauvaise, c'est dur, ça pousse les gens à participer à ce genre de choses.
Omar tient d'abord à se défendre au sujet du dernier naufrage.
On ne met pas autant de migrants sur les bateaux à chaque fois, seulement en fin de saison, car on sait qu'après, la météo ne permettra plus les traversées. Alors, on en met autant qu'on peut. En ce moment, chaque trafiquant a entre 50 et 100 personnes à placer sur les bateaux avant la fin de la saison. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des convois qui dépassent les 400-500 personnes. En mai, quand la météo est bonne, on peut mettre 150-200 personnes dans des petits bateaux en bois pour les faire passer. Mais à la fin du mois, on a encore plusieurs centaines de personnes qui attendent leur tour, et depuis longtemps. On sait qu'à la mi-octobre, la météo n'est plus favorable, donc il faut les faire traverser aussi vite que possible. Si le bateau coule, il coule. De toute façon, ça n'a pas d'impact sur notre business. Les gens continuent à vouloir partir.
Omar fait partie d'un large réseau de trafiquants qui se divise les tâches. Lui a plusieurs rôles. Il joue l'intermédiaire entre les candidats au départ pour les mettre en relation avec le réseau de trafiquants et accompagne les migrants lors d'un premier voyage en mer pour les transférer dans un autre bateau qui effectue la traversée.
Comme vous,
D'abord, il y a les Simsars, ce sont des médiateurs. Il y en a partout à Alexandrie et dans d'autres gouvernorats qui vont voir les trafiquants en leur disant « Voilà, j'ai 10, 15, 20 personnes pour toi ». Son rôle, c'est de mettre en relation migrants et trafiquants et de négocier un prix pour la traversée, sur lequel il prend une commission. Ensuite, on rapporte les personnes, ici, dans un lieu de stockage près de la mer, des entrepôts désaffectés ou des maisons abandonnées. On stocke les gens, certains restent 3 jours, 3 semaines, 3 mois, parfois plus, ça dépend, en fonction du voyage négocié. Ils restent dans cet endroit. Ensuite, le Simsar vient les chercher le jour J et on les amène au bateau. Pour les gens étrangers à la région, ceux qui ne viennent pas du coin, ils ignorent tout de leur voyage. Ils ne savent pas quel bateau ils vont prendre, quel Simsar s'occupe d'eux, quel trafiquant va les prendre en charge, combien de temps ils vont attendre leur tour, quel bateau ils vont prendre. Mais les gens d'ici, tout le monde sait parfaitement qui fait quoi. Les trafiquants sont des pêcheurs, donc les habitants savent ici quand quelqu'un part, dans les mains de qui il est. Les prix fluctuent en fonction du migrant. Si l'Égyptien vient d'ici, c'est plutôt 1300, 1400 euros. Un Égyptien qui vit loin d'ici, c'est entre 1500 et 2000 euros en fonction du deal avec le Simsar. Et pour les étrangers, les réfugiés, c'est plus entre 2300 et 3300 euros.
Mais combien de migrants partent tous les mois?
Tu comptes pas en semaine, tu comptes en jours, c'est tous les jours. Chaque jour, il y a des départs de Kafr el-Sher, d'Amietta, Port Saïd, de partout, 3 à 4 par jour. Les seuls jours où ça ne traverse pas, c'est jeudi et vendredi. Tu peux partir tous les jours, de samedi à mercredi. Il y a entre 12 et 16 voyages par mois.
Les voyages entre l'Égypte et l'Italie ont explosé par rapport à l'année dernière. Selon l'agence Frontex, 12 000 personnes sont arrivées en Italie depuis le pays des pharaons entre janvier et septembre 2016. C'était 7 000 à la même période l'année passée. Omar coupe la conversation et décroche son téléphone. Au bout du fil, un autre passeur qui s'est enfui après le naufrage de Rosette. Mais comment ce business peut-il prospérer aussi facilement? Pourquoi les autorités égyptiennes sont incapables d'y mettre fin? Omar répond sans sourciller à notre question.
Bon, écoute, sans vouloir offenser personne, mais c'est très facile de tromper les gardes-côtes d'une certaine manière. Vous avez déjà vu un voleur qui se fait choper? Il se fait choper dans la nuit noire, c'est ce qui se passe. Si on tombe nez à nez avec les gardes-côtes ou la police, on les bakchiche.
Courant octobre, l'Égypte a mis en place une nouvelle loi qui prévoit des sanctions plus lourdes pour toute personne impliquée dans le trafic de migrants, en précisant que les sanctions s'appliquent également aux fonctionnaires. Elle prévoit des peines d'emprisonnement et des amendes substantielles allant jusqu'à 23 000 euros pour les trafiquants et leurs complices. Les candidats au départ, soupçonnés ou attrapés sur le vif, risquent aussi la détention. Depuis le début de l'année, ils sont près de 5 000 à être emprisonnés pour avoir tenté la traversée. Égypte, le business du désespoir, un grand reportage de Jenna Lebras et François Imferkataji, réalisation Souhil Redir.